un stool. C'est au cas où. Ah, ben moi, j'aime. Si vous autres, ça ne vous dérange pas, moi, si je suis assis, c'est encore mieux. Toi, je te l'ai dit, hein? Jésus, même lui. Comme je suis. Y a-t-il quelqu'un qui a des mouchoirs? Oui, bon.
Il tient, c'est
bon. Bon.
Okay.
Oui. Bon, j'allais dire penser, hein?
Merci, ma soeur Christiane.
Non. Ouais. Elle a compris, elle, que ça risquait d'être plus utile plus longtemps. Ah, là, je ne suis même pas capable de l'ouvrir. Ça va bien? Excusez. Ben moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres. Les circonstances sont un peu particulières, comme vous le savez sans doute. Mais ça fait seulement qu'augmenter la réalité de comment Dieu peut changer notre vie. Oui, là, c'est-tu mieux? OK. Dieu peut changer notre vie une fois, et c'est pas nécessairement une fois pour toutes. Le salut, oui, mais Dieu change notre vie tous les jours de notre vie avec lui. Moi, je suis né à Montréal en 1972, donc un boomer, peace and love. C'était plus love que peace, par exemple. J'ai grandi dans une famille catholique, comme la majorité des Québécois. Moi, j'ai connu ce que c'était que le chapelet en famille à 7h15 le soir avec mon grand-père pendant que mes amis étaient dehors puis ils jouaient. Moi, j'étais à genoux puis je récitais le chapelet. Et je trouvais que c'était pas juste. Mais je me rappelle de détails de mon enfance, puis à chaque fois que je donne mon témoignage, je raconte ça parce que pour moi, c'est un événement, c'est une tranche de l'histoire du Québec. Lorsque le laitier venait avec sa voiture à lait, puis il y avait des caisses avec de bois, avec des broches et les pintes de lait était en verre. Et il n'y avait pas d'asphalte dans les rues à ce moment-là, c'était des pavés. Alors, le cheval avec la voiture, puis les roues étaient souvent, il y avait du métal après, donc ça faisait un tintement, là, si je me force un petit peu, je vais l'entendre quasiment. Alors, j'ai grandi dans cette ambiance-là de du guignou, là, le guignou qui passait une fois de temps en temps, puis ramassait toutes les affaires qu'on avait trop. Il faisait pas de vente de garage dans ce temps-là. Il y avait quelqu'un qui passait de porte en porte. Et c'était drôle parce qu'il était en guenille quand il passait avec le cheval puis la voiture lui-ci. Et quand il repassait le dimanche, il était en Cadillac. C'était le seul qui avait une Cadillac, d'ailleurs, à l'époque. Et j'ai grandi à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Et puis, j'ai été avec mon grand-père. Mon grand-père, c'était celui qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Je dirais plus que mon père et ma mère. Mon grand-père m'a tout appris. Moi, à 5 ans, je jouais aux échecs, puis je jouais aux dames, puis je jouais aux cartes, puis je savais toutes ces affaires-là. Et sauf qu'à 7 ans, j'ai perdu mon grand-père. Il est décédé Il n'est pas mort prématurément parce qu'il avait 95 ans. Ça a tout comme mêlé ma vie à ce moment-là. Je me rappelle d'un événement qui pourrait sembler banal, mais le jour où mon grand-père est décédé, j'étais allé à l'école. Puis je pleurais, puis je pleurais, puis j'arrêtais pas de pleurer. Puis la maîtresse a dit, qu'est-ce qu'il y a? Fait, j'ai dit, mon grand-père est mort. Ben, elle a dit, mon beau garçon, elle a dit, va-t'en à la maison, puis va pleurer à la maison. Tu peux prendre congé aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En tout cas, tous les deuils qu'il y a eu dans ma vie, j'aurais passé beaucoup de temps à la maison, je peux vous dire. À 7 ans, je me retrouve seul parce que mes frères et ma sœur étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi, je suis le petit dernier d'une famille de 4. Mon frère aîné avait 9 ans de plus que moi, mon autre frère 8 ans et ma sœur 7 ans. Donc, moi, je participais pas à leur jeu, puis eux autres, encore moins avec moi. Donc, j'étais un petit peu tout seul. J'étais une espèce de chien savant, là, parce que, évidemment, quand t'es le bébé dans une famille, tout ce que tu fais, puis tout ce que tu dis, c'est beau et fin. Hein? Mais faites pas ça, c'est pas beau et fin pour la suite de la vie de la personne. À 9 ans, on est déménagé dans les Basses-Laurentides à Sainte-Thérèse. Puis, ça a été vraiment un changement drastique dans ma vie. Là. Tu passes des rues sales de Montréal dans les ruelles, parce que nous autres, on jouait dans ruelles dans ce temps-là. Hein, quand j'entends le monologue de Deschamps qui parle des 19 portes là, qui s'ouvrent puis qui se ferment, ben moi je l'ai connu là, hein, quand il se passait quelque chose et sûr de ça que les mamans sortaient puis entrez dans la maison puis ça c'était comme le verdict final. Et fait que en tout cas, on est déménagé à Sainte-Thérèse. Alors tu passes de la ville à la nature parce que dans ce temps-là, c'était vraiment campagne. Là. Alors les champs, les animaux, parce que j'ai pas le seul animal que j'ai eu à Montréal, c'était un poisson rouge. Mais à Sainte-Thérèse, là, j'ai eu des chats, des chiens, puis c'était une nouvelle découverte dans la vie d'un enfant. J'ai beaucoup aimé ça. À 14 ans, j'ai perdu mon père. Mais mon père, étant donné qu'il avait 50 ans de plus que moi, je peux pas dire, moi, j'ai joué avec mon père. Je me rappelle pas d'avoir joué à quoi que ce soit avec lui. C'était comme un étranger dans ma vie. Tout le contraire de mon grand-père. Alors, j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là. Puis à 14 ans, mais quand mon père est mort, ben évidemment, à 14 ans, t'es un ado. Puis les autres peuvent tous mourir autour de toi, puis ça te dérange plus ou moins. En tout cas, en surface, en profondeur, évidemment, c'était différent. Et quand mon père est parti, ben là, je tombais tout seul avec ma mère. Et puis, ma mère, comme toutes les mamans, était pas équipée pour aider un jeune garçon à devenir un homme. C'est pour ça que moi, j'ai un petit peu de difficulté avec les familles monoparentales. Qui sont contentes d'être dans cet état-là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui le sont par la force des choses. Mais quand on se retrouve à devoir élever un enfant du sexe opposé au sien, ben des fois, on a des difficultés qui sont assez difficiles à surmonter. Moi, en tout cas, 15, 16, 17 ans, acheter des cigarettes en cachette. Je me rappelle la vieille madame qui vendait des cigarettes, c'était dans ce temps-là, c'était 5 cents, 2 pour 5 cents. Puis là, on se cachait pour fumer ça. On commençait à fumer à 14 ans, puis commençait à prendre l'alcool, je dirais 16 ans, 15-16 ans. Puis j'étais un enfant difficile parce que j'avais toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'avais pas eu de cadre, de balise, parce que, justement, le papa aurait sans doute servi à faire ça. Et alors, j'ai grandi en faisant les choses comme j'avais envie de les faire, un petit peu à la Frank Sinatra, « I did it my way ». Mais des fois, on fait les choses à sa façon, puis les résultats sont pas toujours heureux. Et j'ai filé comme ça, puis 16, 17, 18 ans, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école, je dirais, à 16 ans. Premier job que j'ai eu, j'ai travaillé dans une manufacture de broderie. Je n'ai pas été là longtemps parce que je me voyais pas travailler sur des corps de travail, parce que dans ce temps-là, c'était... une semaine de jour, une semaine de nuit. Mais dans ce temps-là, tu travaillais pas 40 heures par semaine, là. Tu travaillais 64 heures par semaine. 5 chiffres de 12 heures et le samedi de 8 heures à midi. Fait que je me voyais pas longtemps dans la vie à faire ce genre de travail-là. Alors, j'ai un petit peu touché à tout, vendu des chaussures, du linge. Et, j'aurais pu, je pense, vendre des frigidaires aux Esquimaux. Mais tout ça avec je me disais, ben c'est pas ça que j'ai envie de faire dans la vie. Finalement, j'avais envie de rien faire. Mais d'être riche, mais en faisant rien. C'est assez difficile. Il y a comme une contradiction là-dedans. Et à un moment donné, j'ai été journaliste. Dans le temps, là, c'était les Jeux olympiques de Montréal. Après ça, il y a eu l'Expo 67, avant plutôt. Et j'ai vécu des situations assez spéciales. Mais au travers de tout ça, je cherchais, je savais pas ce que je cherchais. Et comme la majorité des jeunes, des ados qui, en vieillissant, vivent un petit peu la même chose, je dirais, plus on vieillit, c'est pas nécessairement, on sait pas nécessairement ce qu'on veut, mais à mesure qu'on vieillit, on sait de plus en plus ce qu'on veut pas. En tout cas, on procède par élimination. Puis, évidemment, j'ai rencontré tout plein de gens au travers de ces années-là, dont une personne qui m'a initié au monde de l'occultisme. Ça, c'était une grande découverte dans ma vie parce que la première fois, je me rappelle, j'étais rentré dans un café à Montréal, puis un astrologue qui est arrivé, puis il avait commencé. J'ai juste dit ma date de naissance, puis là, il était là, puis il me racontait ma vie, puis là, sur le coup, ça t'impressionne, puis... Et là, j'ai commencé, on a acheté des livres sur l'astrologie, puis j'ai commencé à me plonger là-dedans, là, mur à mur. Et je vivais avec une femme qui était mon aînée de 4 ans, et je dirais que ça a été sans doute le premier amour, là, vraiment, de ma vie, là. Puis cette personne-là était, comme moi, était je cherche le terme exact, là, gypsy, bohème. On décide de traverser le Canada en 1968, mais il y a un hic. Elle a un enfant d'un an et demi. Et on peut pas amener l'enfant d'un an et demi. On décide. Et ça, j'en parle, puis j'en ai froid dans le dos. Là. On décide de laisser l'enfant à la voisine de palier. Je dis pas que tout le monde faisait ça dans ce temps-là. Mais ça allait jusque-là. Le « je m'en fous » là allait jusque-là. Tellement imbu de soi, tellement préoccupé par son bonheur à soi que les autres n'avaient plus d'importance. Alors, on a traversé le Canada. Avant de traverser le Canada, ben, on s'était arrêté à Brockville, à la frontière entre l'Ontario et le Québec. Je me rappelle, je commençais à avoir les cheveux longs dans ce temps-là. Je les avais pas dans le milieu du dos. On arrive à la frontière, puis le type, là, je vois encore le vieux douanier arriver. « Where are you going, sir? »« I'm going to Frisco, man! » Il dit « Où tu t'en vas? » J'ai dit « Je m'en vais à San Francisco. » Fait que là, tout de suite, là, la petite lumière s'allume. Et le monsieur dit « Bon, on va fouiller le véhicule. » Oh là là là! Et fouiller de même, là, c'était quelque chose. Fait que, mais il n'y avait rien à trouver parce que je consommais pas de drogue à cette époque-là, pas du tout. Et ben, on était parti quand même pour un bout de temps. Ça fait que ma compagne d'alors, parce que dans ce temps-là, c'était populaire, les pilules anticonceptionnelles, elle avait une boîte de pilules. Fait que quand il est arrivé là-dessus, il dit « What's that? » Je dis hey, « Guess, Smarties! » Il dit « C'est quoi ça? » J'ai dit « Des Smarties. » En tout cas, toutes sortes de niaiseries de même pour que le monsieur ne soit pas très content. De telle sorte qu'il a dit à un moment donné « Tu passes pas. » Oh. Fait que là, je me suis fâché après. « Je veux pas aller dans ton pays. Je veux aller à Cuba, en Russie, mais je peux pas voler par-dessus ton pays. » Fait que il dit non, tu peux pas passer ici. Il dit, on va être obligé d'attendre l'officier qui va venir demain matin. Fait que moi j'ai dit attendrai pas l'officier le lendemain matin. Fait que j'ai dit on va essayer à l'autre barrage. Mais rendu à l'autre barrage, il y avait un petit rapport. C'était marqué dessus « Two male hippies, one female with $700 in her pocket and one revolutionary who wants to go to Cuba and Russia. » Deux mâles hippies, une femelle avec 700$ dans ses poches puis un révolutionnaire qui veut aller à Cuba puis en Russie. Ça fait qu'on n'a pas passé là non plus, hein? Alors, on a décidé, on a traversé le Canada, on embarquait des pousseux, puis on les faisait faire un bout. Après ça, on débarquait. On a rencontré tout plein de monde. Rendu à Vancouver, on a démarré une petite commune de cueillette de bleuets. Quand je suis arrivé au lac Saint-Jean en 76, je racontais ça, il y en a qui me regardaient avec un regard très sceptique. Parce que je dis, là-bas, sur la commune, on ramassait des bleuets avec des escabeaux. Oui, 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 oui. C'était des bleuets de culture, beaucoup plus gros, moins bons aussi. Mais finalement, la commune aux bleuets, ça n'a pas marché parce que moi, je ne consommais pas de drogue, mais tous les autres passait plus de temps à fumer du pot qu'à ramasser des bleuets. Fait que, on est obligé d'arrêter tout ça. Puis, je me rappelle, c'est un monsieur juif qui s'appelait Sam. Quand il m'avait dit, Yves, on va être obligé d'arrêter ta commune parce que, il dit, quand j'arrive pour vendre les bleuets, là, les gens n'en veulent pas. C'est plein de toutes sortes d'affaires là-dedans, sauf des bleuets. Fait que là, on a fallait revenir au Québec. Évidemment, on n'avait plus de sous, on avait une voiture. Mais il y avait un bonhomme que plusieurs parmi vous connaissez qui était avec moi dans ce voyage-là, Guy Lavoie et Timous. Et lui avait décidé qu'il restait là-bas pour un bout de temps. Fait que, prends la voiture, j'avais une vieille Pontiac 59 dans ce temps-là avec un 2,83, messieurs. Ça vous dit quelque chose, hein, 2,83? Ça, c'était du moteur. Et je me mets sur le bord de la 1, de la route transcanadienne. Et là, j'ai dit Dieu. J'ai dit, là, si tu existes, il va falloir que tu trouves un moyen de me ramener au Québec parce que on n'a pas une scène dans nos poches. J'ai dit, on a un véhicule. Puis j'ai dit, hein? Fait que on est là le lendemain matin, on entend tout, tout. C'était deux Américains avec une Canadienne qui était chauffeur de stock car qu'on avait rencontré dans notre périple, puis qui travaillait elle aussi sur la commune au Bleuet, puis toute la quête. Fait que ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je ne sais pas, on attend quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on dit, c'est quoi, où vous voulez aller? Je dis, on veut aller au Québec. Come on, let's go! Et eux autres, mais là, je veux pas que vous pensiez que je pense que c'était correct, mais le gars, le plus vieux des deux bonhommes, il dit, j'ai échangé de la dope pour une carte de crédit. Fait qu'il dit, ça va bien, il dit, on arrête d'un garage. Puis dans ce temps-là, les dépanneurs, ça n'existait pas ici. Mais dans l'Ouest canadien, il y avait une station de service, puis il y avait toujours une espèce de dépanneur qui était attenant à ça. Fait qu'en tout cas, on est revenu au Québec de même en faisant le plein, puis en mangeant des sandwichs au beurre de peanut. Peux-tu vous dire que j'en ai mangé de ça, du beurre de peanut, moi? J'en mange encore, puis j'aime ça, en tout cas. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé à Geraldton, en Ontario. Depuis une journée ou deux, mon moffleur, mon silencieux, m'avait lâché. Et ça donnait qu'en dessous de mon siège, l'exhaust, le CO sortait à pleine allure, puis les quatre vitres ouvertes, le slip sur moi, mais j'ai quand même été empoisonné par le monoxyde de carbone, de telle sorte qu'un matin, on est obligé de m'amener d'urgence à l'hôpital. Puis là, t'arrives là-bas, tu sais, je fais long dans le temps. Mais, fait que là, le médecin, il m'a fait un lavage d'estomac, puis tu te quittes. Puis il a dit, toi, 15 minutes de plus, puis t'étais plus là. J'ai dit, ah bon. Il y a eu bien des fois où je suis pas assez proche, mais comme je disais à quelqu'un tantôt, mais j'arrive au ciel, pour moi, il y a un paquet d'anges qui vont arriver, ils vont dire, toi, tu nous as fait faire de l'overtime. fait que, évidemment, la gendarmerie royale du Canada est venue me voir sur le lit d'hôpital, puis question, la drogue, puis j'en prenais pas de drogue pantoute. J'étais pas nécessairement un bon petit gars, mais j'en prenais pas. Bon. Fait que, puis le médecin, il a dit, non, c'est pas de la drogue, c'est du monoxyde de carbone, il doit pas prendre ça pour triper certains, monsieur. Fait que, en tout cas, là, pas de muffler, 4 heures foufoune, là, c'est l'eau pipi, la police provinciale d'Ontario, on dit, toi, tu pars pas d'ici avec le véhicule qui est là. Il dit, oh! Alors, t'es obligé de vendre le véhicule à un franco-ontarien. J'ai été un petit bout de temps, je les aimais plus beaucoup, eux autres. Ils m'avaient donné 40 pièces. Fait que là, on sépare la gang, puis là, c'était triste à mourir. On était habitués d'être une dizaine de jeunes ensemble, puis là, il fallait qu'on se sépare. Puis, j'avais beaucoup de peine. Puis, fait que, il y a un des deux Américains, lui, il fait le fantasme. Les policiers ont dit, on va fouiller tes bagages aussi pour voir s'il n'y avait pas de drogue. Il faisait son fantasme. Aux États-Unis, je suis le plus gros pocheur, mais j'ai pas de drogue avec moi. Et il y avait une feuille de ma vie. Une. Il est tombé sur un numéro gagnant et ils l'ont amené à ce qui s'appelle aujourd'hui Thunder Bay, qui s'appelait à l'époque Port Arthur, Fort William. Port Arthur, en tout cas. Mais quand je suis monté dans le véhicule, je me suis mis à pleurer. Puis là, je pleurais. Puis je pleurais. Et ma compagne a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, I'm crying over the old world. Puis j'avais vraiment l'impression que je pleurais sur le monde entier. C'était comme si j'avais vu toute la misère humaine, puis toute la souffrance. Puis là, j'ai vu la croix. J'ai vu la croix, vraiment. C'était la première fois de ma vie que je comprenais, en tout cas, en partie, la signification de la croix. Je voyais que lui avait porté tout ça. Fait qu'au fond, moi, j'avais pas l'affaire à prétendre ou à vouloir porter le monde sur mes épaules. Il le fait, lui. Ça reste là. On est en 68, on revient au Québec. Deux, trois ou quatre compagnes plus loin, tout plein d'aventures. Entre-temps, Timous s'est converti en 1971. Et Timous faisait partie de mes chums qui cherchaient la vérité. On tripait, mais on cherchait la vérité. Alors, ceux qui faisaient ça, c'est-à-dire les deux, la plupart sont sauvés aujourd'hui, et ceux qui tripaient pour triper, ils ont continué à triper, eux autres. Alors, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Là. Je les ai perdus de vue, bien évidemment. Mais Guy, la première fois que je l'ai vu arriver avec une Bible dans les mains, je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, yo-yo! Ben, ça, c'était mon surnom. Hein, ça vous donne une idée comment je pouvais être. J'y avais plus de down que de up. C'est que, yo-yo, j'ai trouvé la vérité dans ça. Il me montre la Bible. Il dit, la vérité est là-dedans, yo-yo. J'ai dit, si toi, tu me dis ça, j'ai dit, je vais aller voir, parce que ça doit être vrai. Fait que je suis allé voir. Mais là, je suis allé voir, mais je voulais pas laisser les autres affaires. Fait que j'avais ma blonde, on n'était pas mariés. J'avais l'once de pote sur la table, la caisse de bière, les livres d'occultisme, et puis ma petite pipe à chiche. Puis là, de temps en temps, c'est-à-dire tous les jours, il y avait des chrétiens qui venaient chez nous. Essayez de vous imaginer, là, vous allez chez quelqu'un qui est arrangé de même. Puis moi, là, je connaissais la parole, là. Moi, comme eux autres. Hein, je connaissais le plan du salut. D'ailleurs, j'ai amené des gens au Seigneur, puis je n'étais même pas sauvé. Mais mon cœur était pas touché. Ça marchait pas, cette histoire-là. Là. C'est ma tête, je comprenais le plan du salut, tout était beau. Je comprenais que j'étais un pécheur. Moi, quand ils m'ont dit ça, j'étais pas surpris. Quand tu dis ça à une mère de famille qui a mis 15 enfants au monde, puis elle dit, « Toi, mon petit gars, tu penses que tu vas aller au ciel? » Puis moi, je n'irai pas, j'ai mis 15 enfants au monde. J'ai dit, « Madame, si vous allez au ciel, ça sera pas parce que vous avez mis 15 enfants au monde. » Je dis, Dieu, il n'y a rien contre le fait que vous ayez fait ça. Là. Mais le salut, ça dépend pas de vous. Ça dépend de lui. Mais en tout cas, la vie continue, puis je suis toujours assis entre deux chaises. Mais en tout cas, on sait que c'est pas toujours confortable d'être assis entre deux chaises. Et les chrétiens continuent toujours de venir à la maison. Puis ils m'invitent à un moment donné à une conférence d'un Allemand qui, lui, donnait des conférences pour dénoncer le monde de l'occultisme. Il s'appelait Kurt Koch. Alors, je suis allé le voir à Montréal. Hey, mais je suis allé le voir avec ma grande robe verte à paillettes. Beau grand collier, puis là, lui, il fait sa conférence, puis tu te la quittes. Pis, après la conférence, je me lève debout, je dis, « Je suis chrétien, mais je suis aussi astrologue. » Oh boy! Watch out! Je l'entends encore. C'était un géant, le monsieur. Il devait mesurer 6 pieds 3. Dans ce temps-là, 6 pieds 3, c'est un géant. Aujourd'hui, 7 pieds, c'est même pas un géant. On a changé de dimension, je dirais. Mais je le vois encore, puis avec le vieil anglais de la King James, il me cite Ésaïe 47, 12 à 15. « Stay out in thine enchantment and in thy multitude of thy sorceries. » Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. À l'époque, je faisais une pièce la minute. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. À ce moment-là, je suis astrologue, j'ai un bureau, j'ai une chronique dans Éco-Vedette. Je reçois à peu près 100 lettres par semaine de gens qui m'écrivent, je m'appelle professeur Petel dans ce temps-là. Mais là, moi, je lis les lettres, je me rappelle, sur l'autobus entre Montréal et Sainte-Thérèse, je lisais les lettres, puis je pleurais, puis je me disais, bon sang, ces gens-là, ils veulent que je les aide, mais je peux rien faire pour eux autres. J'étais, ça avait pas de bon sens. Et là, quand j'ai entendu ce monsieur-là me citer ce verset-là, ça m'avait ébranlé, j'avoue. Mais pas assez pour faire le pas. Fait que je suis invité au premier Salon international des sciences occultes de Montréal en 1972. Alors là, il y a toutes sortes de spécimens. Hein. Il y avait un prêtre, un ex-prêtre qui tirait à boule de cristal. Il y avait des fakirs qui mettaient leur bébé sur un lit de clous. Après ça, ils leur levaient, ils montraient les trous. Puis, il disait, mon bébé n'a rien. En tout cas, lui, il n'a rien, mais toi, t'as quelque chose, certain. Et en tout cas, je me voyais là-dedans, puis plus le temps avançait, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Je disais, voyons, c'est quoi que tu fais, là? Toi, tu dis que t'es sincère, t'es dans la bonne affaire, parce que dans ce temps-là, l'astrologie, c'était une science. Ouais. T'es pas scientifique pantoute. Aujourd'hui, je le sais, mais dans ce temps-là, je le savais pas. Il y avait même, une fois, deux religieuses qui sont venues me voir pour me consulter. Mais dans ce temps-là, ils commençaient à s'habiller en monde. Ils n'avaient plus leur costume, je sais pas comment on appelle. C'est pas une robe, c'est un... Ouais. Fait que là, ils arrivent toutes les deux. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ça, vous autres? J'ai dit, vous n'avez pas le droit de venir consulter un astrologue, vous autres. C'est écrit dans la Bible. Hey, le fou, toi, t'as le droit de d'écouter. Et là, à mesure que la semaine passait, parce que ça avait duré une semaine, cette affaire-là, là, je voyais, là. Je me voyais comme connaissant la vérité, mais voulant pas me soumettre à la vérité. Je voulais continuer à faire mon trip à moi, mais à saveur chrétienne. Peux-tu essayer d'en aller là? Fait que je m'en retourne chez nous, une journée avant la fin du salon. Puis là, j'étais avec Lucie. J'étais avec ma Lucie. Hein. Ouf! Fait que on a passé une fin de semaine chez un de mes clients, comme astrologue. Hein. Puis on est revenu à la maison. Lucie avait attrapé un coup de soleil épouvantable. Elle avait des cloques dans le dos. C'était presque épeurant. Je me rappelle, il était à peu près 7 heures le soir. C'était un dimanche soir. J'arrive à la maison. Lucie s'en va dans le bain pour essayer de, dans l'eau froide, de faire passer ça parce que c'était très douloureux. Et puis, moi, je m'allume un joint. Puis, pour la première fois de ma vie, je le regarde. J'ai dit, toi, là, il n'y a rien, là. D'habitude, j'ai fumé jusqu'au bout, puis je mangeais même le papier. Et là, je l'ai éteint. Puis, je savais qu'il y a quelque chose qui devait se passer ce soir-là. Là, j'entends toc, toc, toc. C'est Patimousse. C'est Jean-Pierre, Pierrot, un ami de que j'avais rencontré au cégep, Lionel Gros. Il dit, yo-yo, c'est à soir. Et quand il a dit ça, je savais que c'était ça. Je savais qu'il savait que là, j'étais rendu. C'était ça, là, où je m'enlevais la vie parce que je trouvais que les deux chaises étaient devenues inconfortables. Puis assis entre les deux, c'est pas bien, bien mieux. Fait que cette nuit-là, parce que c'était à minuit le soir, j'ai reconnu que j'étais perdu. D'abord, j'ai pas eu de misère à reconnaître que j'étais perdu. Ça, c'était facile, c'était évident, mais perdu, c'était plus profond. C'était non pas par rapport au monde qui m'entourait, parce que je n'étais pas pire que les autres poteux, mais c'était par rapport à un Dieu trois fois saint. Là, je ne faisais pas le poids. Là. Et c'est pour ça que je vous reviens avec ma madame, avec ses 15 enfants. Elle est plus portée à penser qu'elle fait le poids. Mais quand tu es perdu, en plus d'être perdu, tu sais que tu peux pas faire le poids. Alors, j'ai reconnu que, vraiment, que Jésus avait payé ce que moi, j'aurais dû payer, puis que j'étais pas en mesure de payer le prix de mes péchés. Il y a quelqu'un qui fallait qu'il paye quelque part pour le fait que loin, loin dans le temps, il y a quelqu'un qui a désobéi puis qui a pris le mauvais bord. Dans le jardin d'Éden, vous savez, je veux pas m'étendre là-dessus, mais dans le jardin d'Éden, j'aime bien la dynamique. Dieu donne la capacité à l'homme de vivre, d'être immortel, parce que tant et aussi longtemps qu'il mange de l'arbre de vie, il est immortel dans le jardin d'Éden. Il lui défend une chose, la connaissance. Il veut pas que la connaissance prenne la place de la révélation. C'est ça que Dieu interdit dans le jardin d'Éden. Mais il y a un troisième personnage qui entre en ligne de compte, qui lui était le numéro 2 dans le plan de Dieu. Satan occupait la deuxième place. Il y avait Dieu et il y avait lui qui était le chérubin protecteur. Mais lui, il voulait devenir numéro 1. Alors, ce qu'il fait après avoir été précipité de la présence de Dieu, ben là, il veut essayer de polluer le niveau suivant de la création de Dieu qui était l'homme. Alors, il va faire croire à la femme puis à l'homme en même temps que Dieu a des choses qu'il a cachées à l'homme. Et lui, il dit, moi, je vais vous les révéler, ces choses-là, je vais vous les dire, puis je vais vous donner la capacité de comprendre ces affaires-là. Vous savez, l'occultisme, là, c'est exactement ça. L'occultisme, c'est la prétention que les choses que Dieu aurait cachées, je puis y accéder. Ça, c'est un mensonge. C'est pas arrêté dans le temps, ça. Ça continue. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au monde de l'occultisme. Et moi, à partir du moment où j'ai accepté le Seigneur, comme puisque c'est une expression qu'on a adoptée, ça voulait dire que Dieu avait pris dans ma vie la première place, que à partir de ce moment-là, je lui soumettais ma vie. Malheureusement, vous savez très bien, tous tant que vous êtes, que même si on a donné le volant à Dieu une fois dans notre vie, ça nous arrive souvent de se tourner vers le volant puis d'essayer de le poigner à deux mains. Dieu nous casse pas les bras, nous laisse aller. Sauf que lui, il débarque quand c'est moi qui prends le volant. Parce qu'il sait que je vais me planter. Puis après, il revient et il dit, « Puis, t'es-tu correct, là? Tu veux-tu encore chauffer? » Ben, moi, j'ai dit dernièrement que j'avais même plus le goût de chauffer. Vous savez, perdre sa compagne, c'est... Ça va loin, ça va très loin. C'est très gros. Je veux pas non plus m'étendre là-dessus. Mais au travers de cette expérience-là, il y a un texte de Jacques. Je l'avais lu bien des fois avant. Vous savez, c'est ça qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est... Quand on dit que la parole de Dieu, elle est vivante, là, elle est vivante. C'est pas une allégorie, ça. C'est pas un symbolique, là. Jean 4, à partir du verset 13. À vous, maintenant. Parce qu'il dit à vous à plusieurs reprises dans le texte. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Quand tu vois ta compagne dans une boîte de bois, puis une semaine avant, elle n'était pas là pantoute, puis il n'était pas question de ça. Puis on avait plein de projets, elle venait de commencer sa retraite. Puis là, tu dis, oh, on vit sur du temps emprunté. Si vous vous rappelez juste de ça, ça va déjà être beaucoup. Ne prenez rien pour acquis. Votre vie est comme une, hey, c'est fort ça, une vapeur déjà, c'est pas fort, hein? Vapeur qui paraît, pas qui est, qui paraît, pour un peu de temps. Pas long, ça. Et qui ensuite... Mais quand ça arrive aux autres, là, c'est de valeur. Il était fin. Il était fin. Mais quand ça arrive à quelqu'un qui fait partie de toi, là, parce que moi, je fais pas partie des projets des autres. Je fais pas partie des projets de retraite des autres couples. Mais là, tu t'aperçois de la précarité de la vie, mais pas dans le sens théorique. Là, tu viens comprendre ce que ça veut dire, le pratique. Tu viens de comprendre que il y a un verset qui dit si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Posez-vous la question. D'abord, si Dieu n'a pas pris votre vie en charge, si c'est pas lui qui dirige votre vie, déjà vous êtes dans le trou. Et si vous lui avez dit un jour dans votre vie que vous lui donniez votre vie et que pour quelque raison que ce soit, vous avez décidé de reprendre le volant, vous êtes dans le trou aussi. Dans les deux cas, arrêtez-vous. Arrêtez-vous un moment. Arrêtez-vous avant qu'il vous arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Moi, ça m'a toujours frappé, cette simplicité de mots-là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est quoi vos projets? C'est quoi votre priorité dans la vie? C'est qui que vous avez mis à la tête de votre entreprise de vie? Si c'est pas Dieu, vous êtes dans le trou. Parce que vous savez, il y a pas, c'est pas un choix multiple avec beaucoup de possibilités, là. Je dis souvent, on est venu sur la terre pour une chose, pour choisir dans quelle équipe on veut passer l'éternité. Posez-vous là cette question-là. Puis si vous avez répondu la bonne réponse, et j'ai toujours trouvé ça fort dans Deutéronome 33, Dieu dit qu'il y a un choix. Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et toi, choisis le bien. Il me dit le choix possible. Et il me dit ce que je dois faire. Moi, j'aimerais ça prier, là. Puis, moi, je vous connais pas toutes, là. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'il n'y a pas personne ici. Personne. Que vous soyez spirituel mur à mur. ou que vous ne le soyez pas du tout. On a tous quelque chose à faire dans notre relation avec Dieu. C'est vivant, ça. Moi, chaque jour, j'ai appris à me lever en disant, « Seigneur, donne-moi l'énergie pour me lever. » Hey, il faut le faire, hein? Quand tu as de la misère à te traîner, puis tu es obligé de demander à Dieu, « Aide-moi à me lever. » Là, c'est pas « Aide-moi dans mon examen » ou « Aide-moi dans la fabrication de telle chose. » C'est « Aide-moi juste à être. » Ça fait tout le monde ici. Peu importe qui. Peu importe votre background. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. De la même façon, peut-être pas. Mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps de s'arrêter puis de dites-lui donc les vraies choses à Dieu. Si vous avez envie de l'engueuler, engueulez-le. Ça va être fait. Après ça, on n'en parlera plus. Si vous avez envie de lui dire que vous êtes déçu de lui, ça me fait pas peur, moi, ça. J'ai dit, moi, je vous dirai pas tout ce que j'ai dit à Dieu, parce que... Demandez-lui de prendre votre vie en main. Vraiment, là, vraiment. Pas, il s'assit pas sur le côté du helper. Ça l'intéresse pas. Il veut l'autre côté. Alors, donnez-lui cette position-là dans votre vie, une fois pour toutes. Là. Une fois pour toutes les autres fois que vous aviez dit que vous y aviez donné et que vous y aviez enlevé le stérile. Puis, il va se passer de quoi dans votre vie? Ben, peut-être que ça sera pas toujours le fun. Moi, il y a un mois et une semaine, je peux pas vous dire que j'étais très, 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 très heureux quand j'ai vu ma femme coucher dans la boîte, puis il a fallu fermer la boîte. J'étais pas heureux, heureux pour moi. J'étais heureux, heureux pour elle. Mais moi, je trouvais ça plate qu'on finisse pas ce qu'on avait commencé. Mais même à travers ça, je vis des choses, je sens Dieu bien plus proche qu'avant. Je pourrais presque y toucher, tellement je me suis collé dessus, tellement j'ai voulu qu'il me prenne dans ses bras. Faites-la, cette démarche-là. Attendez pas qu'il vous enlève tout ce qui est autour de vous autres. Faut réaliser qu'il veut la première place. Parce que si c'est ça, il va le faire. À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose va prendre la place de Dieu dans votre vie, il va l'ôter. Et je dis heureusement. Seigneur, on veut s'approcher de toi parce que, au fond, comme dit Pierre, c'est qu'on pourrait aller. C'est toi qui as les paroles, c'est toi qui as les réponses, c'est toi qui es capable de changer notre vie, de nous prendre en main. Tu es capable de faire quelque chose de correct avec du monde pas correct. Et on te remercie de ça, Seigneur. On te demande de nous aider à pas être chicken, à te faire confiance au complet, à te laisser le contrôle. Peu importe ce qui va en coûter, Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi. Et sans doute qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est conscient qu'on ne sera plus ici tellement longtemps encore. Aide-nous, Seigneur, à aider des gens qui nous entourent à à te remettre à la première place dans leur vie. Et Seigneur, on te prie ça dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dû payer de sa vie pour qu'on soit capable d'avoir cette relation-là avec toi. Et on te remercie pour le fait qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il ne s'est pas dégonflé. Et Seigneur, on te demande de nous donner tout plein d'amour dans nos cœurs pour lui et pour ses enfants. C'est en son nom qu'on te prie. Amen. Non. Si vous voulez faire quelque chose, vous prierez pour moi. Ça va. Ah, ben, papa, il y a de la misère, hein? Ça bouge moins vite. Tu vois, je n'ai pas eu besoin, finalement.
Merci beaucoup, frère, pour votre témoignage authentique, un témoignage vivant. Et je sais que ça a touché nos cœurs, moi ça a touché le mien, mais je suis persuadé que ça a touché le cœur de tous ceux qui sont ici ce matin. Qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, on peut pas rester indifférent à ce que le Seigneur fait dans une vie. Et avant d'introduire le dernier chant, j'aimerais quand même prendre le temps de partager des choses avec vous dans la parole, prendre juste quelques minutes, parce que notre frère a très bien placé la table, il a tout placé les ingrédients dessus, et il vous a lancé l'invitation, si vous êtes ici ce matin, et que vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur, eh bien, il vous a donné une invitation, qui selon moi est une invitation vraiment à considérer, à prendre en considération. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est vrai ce qui est le texte qu'on a vu dans Jacques, qui dit que notre vie, c'est rien. C'est une vapeur. Pensez-y. Là. Maintenant, vous êtes ici. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez être? Personne ne le sait. Personne ne peut garantir de qu'est-ce qui va arriver dans l'heure qui va suivre. Alors, on est vraiment, vraiment à la merci de la décision divine. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas Christ, qu'on va te sauver, mais que votre cœur a été touché, laissez pas passer cette occasion. Mais acceptez le Seigneur ce matin. On va vous donner l'occasion de pouvoir le faire, mais j'aimerais, vous avez reçu, nos visiteurs, vous avez tout reçu le Nouveau Testament, le petit l'Évangile de Jean, la portion de Jean. J'aimerais vous inviter à tourner à l'intérieur de ce petit livre-là, dans Jean chapitre 1, et partager avec vous un court texte. Jean chapitre 1, et à partir du verset 9, que j'aimerais lire avec vous. Cette lumière était la véritable lumière, on parle de Jésus-Christ ici, le sauveur du monde, le même sauveur que notre frère a connu et qui nous a partagé il y a quelques instants. Donc, cette lumière étant la vraie, véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais regardez bien au verset 12, et dans vos petits livres, c'est écrit en caractère noir, en bold. C'est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pardon, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pensez pas devenir un enfant de Dieu autrement qu'en croyant en ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Moi, c'est le texte qui m'a touché, qui m'a conduit au Seigneur il y a de ça bientôt 34 ans. Et parce que le Seigneur m'a montré à travers ce texte-là que ce n'était pas par ma volonté ou par la volonté de quelqu'un d'autre ou par mes propres efforts ou par mes propres expériences. Peu importe les expériences que vous avez pu vivre, mais que c'était uniquement en croyant du cœur, en croyant en Jésus-Christ, que vous pouvez avoir le pouvoir de devenir un enfant de Dieu et d'être sauvé ce matin. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, j'aimerais vous donner l'occasion. J'aimerais qu'on ferme les yeux quelques secondes, tout le monde par respect pour les autres, que tout le monde puisse fermer les yeux. Et suite au témoignage de notre frère, il n'y a pas beaucoup de choses d'autres à ajouter, selon moi. Tout a été dit. Tout est clair. Mais si votre cœur a été touché ce matin, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez comprendre, que vous puissiez recevoir, que vous puissiez accepter ce si grand salut qui vous est offert en Jésus-Christ ce matin. Simplement en croyant que Jésus a tout payé à la croix du calvaire pour vous. Lorsqu'il est à la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Oui, comme notre frère a dit, Jésus va être au volant de votre vie et non pas l'alpeur à côté. Et si dans votre vie, ce n'est pas lui qui conduit votre vie actuellement, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais j'aimerais vous donner l'occasion ce matin de venir devant Dieu, simplement, et même de lever la main en disant, « Oui, j'ai été touché ce matin par le témoignage. Et j'aimerais que quelqu'un m'aide. Et j'aimerais que quelqu'un s'assoie avec moi pour prier avec moi, pour me conduire, pour m'expliquer comment faire pour être sauvé. J'aimerais quitter cette salle ce matin, mais j'aimerais quitter cette salle avec le salut, avec la compréhension de qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Si vous êtes un frère, une sœur, qui, au cours de votre vie, avait pris le volant à la place du Seigneur, avait pris la direction de votre vie, avait repris la direction, bien, la même chose ce matin, le Seigneur vous invite à dire non, 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 Seigneur. Moi, là, je te donne le contrôle total de ma vie. Et je veux exactement faire ce que tu vas me dire de faire, comme tu veux que je le fasse. Parce que ma vie, elle est entre tes mains. Je ne sais pas demain non plus qu'est-ce qui va m'arriver. Mais je veux être là où est-ce que tu veux que je sois, en train de faire exactement ce que tu veux que je fasse. Je veux que tu me trouves fidèle, Seigneur, et non pas en train de perdre mon temps dans les plaisirs du monde. Donc, si tu es un chrétien ce matin, tu as besoin de cette prière, tu peux lever la main aussi, pour qu'on puisse prier pour toi. Gênez-vous pas. Levez la main, afin que je puisse prier avec vous. Si le Seigneur a touché vos cœurs, vous voulez l'inviter à rentrer dans votre cœur ce matin, indiquez-le en levant la main, on va prier. Oh, notre Dieu, notre Père, quel beau témoignage. Mais c'est vrai, comme notre frère a dit, on n'a pas besoin d'applaudir son témoignage. On n'a qu'à dire gloire à Dieu. Parce que c'est tout toi qui l'as fait. C'est toi qui as connu cet homme. C'est toi qui es allé le chercher là où il était, dans les profondeurs des ténèbres. Mais par ton amour, par ta lumière, qui est venue dans le monde, qui brille, tu l'as attiré à toi. Et tu lui as donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais tu peux faire ça dans chacune de nos vies ce matin. Gloire soit ton nom, qu'on peut avoir l'assurance de notre salut. Oh oui, on peut savoir qu'on peut être sauvé avant de quitter ce bon monde. Je te prie pour ceux et celles qui sont ici, qui ne te connaissent pas encore, que leur cœur puisse te recevoir maintenant et pour l'éternité. Je te prie pour les frères, sœurs, qui se seraient éloignés d'une façon ou d'une autre. Seigneur, qu'est-ce que notre vie? Une vapeur. On paraît et on disparaît aussitôt. Que nos vies soient en règle avec toi. Qu'on soit là où tu veux qu'on soit. Pas en train de se perdre dans les souillures du monde. Fais ton œuvre dans nos vies. Permets que les frères et sœurs puissent revenir à toi, de tout cœur, de toute âme, et retrouver la joie de leur salut. Seigneur, que tu puisses nous bénir tout au long de cette journée. Merci pour cette matinée. Touche nos cœurs par ton Saint-Esprit vivant et puissant. C'est en ton nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Oh, juste avant de vous dire le mot de la fin, j'inviterai le groupe musical à nous interpréter un dernier chant dont le titre est « Suivre ». Très beau chant.